J'ai un sujet très important à vous partager. Alors, c'est un texte auquel je m'étais attaqué lors d'une étude biblique parce qu'on faisait sur Élisée. Et puis je me suis dit, mais comment je vais prêcher là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce texte? C'est un peu un imprêchable. Certains peut-être commencent à voir le texte dont je veux parler. Il est assez problématique. Et en étudiant un petit peu, j'ai eu tellement de révélations que je me suis dit, il faut que j'en fasse une prédication. Absolument. Alors pour certains qui connaissent ce texte, peut-être je vais vous enlever une épine du pied. Pour ceux qui connaissent pas ce texte, eh ben, je vais créer un problème, mais on va gentiment le résoudre ensemble. Ça vous va? Alors, je vais d'abord vous donner un peu le contexte. On est dans 2 Rois, chapitre 2. Et c'est le début du ministère d'Élisée. Élisée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accompagner Élie, son maître, depuis Bethel jusqu'à Jéricho. Enfin, passant par Jéricho, ils vont descendre ensemble vers le Jourdain. Bethel, c'est environ 800 mètres d'altitude. Ils descendent à moins 250 mètres ensemble. Et là, Élisée, il accompagne Élie vers le lieu où il sera enlevé. Donc Élie, ce prophète légendaire de l'Ancien Testament, qui toute sa vie a vécu dans l'opposition avec des autorités injustes, qui a confronté des rois qui étaient immoraux, qui opprimaient le peuple. Vous rappelez peut-être, hein, certains, qu'il a fait venir le feu sur un autel et après il a exécuté, je crois, 250 prophètes, 400 prophètes de Baal. Ben voilà. C'était un prophète qui inspirait pas mal de terreur. Et il a vécu dans l'opposition toute sa vie, et il a été enlevé miraculeusement, sans aucune égratignure, par son Dieu, au milieu d'une nuée entourée de chars. C'est une vision magnifique. Et il n'y a que Élisée qui a pu voir ça. Qu'est-ce qu'il va faire après ça, Élisée, dans ce chapitre 2? Il va récupérer le manteau d'Élie, qui représente son ministère. Et puis il va frapper les eaux du Jourdain, et puis il va faire son premier miracle. Il va passer à sec le Jourdain en ayant séparé les eaux. Et ça, qu'est-ce que ça va montrer? Ça va affirmer son ministère. Je suis, moi, Élisée, le successeur d'Élie. Après, qu'est-ce qu'il va faire? À la suite de ce chapitre 2, il va remonter gentiment vers la ville de Jéricho, une ville qui n'aurait pas dû être là à la base, vu qu'elle avait été maudite par Josué. Cette ville a été reconstruite. Il y avait un problème, c'est qu'il y avait encore une malédiction dans cette ville. Les eaux étaient polluées. Je pense que c'était probablement à cause de tout le sel, vu qu'ils sont proches de la mer morte. C'était une eau qui produisait rien. Et là, Élisée, il va faire un miracle qui va donner le ton de son ministère. J'aime beaucoup ça. D'abord, il montre qu'il est le successeur d'Élie. Et après, il donne le ton de son ministère. Élie, c'était un prophète de jugement. Et Élisée, là, ce sera un prophète de grâce. Il va mettre du sel sur un plateau neuf. Et il va le jeter dans la rivière, dans la source. Et tout à coup, l'eau sera purifiée. Élie a passé sa vie à porter le jugement. Élisée, tout à coup, il annonce quoi? La grâce. Élisée, dans tout son ministère, on voit qu'il est préfigurateur, annonciateur de Jésus, annonciateur du Messie qui apporte la grâce à l'humanité. Et là, ce miracle, ça donne le ton à tout son ministère. Je trouve ça magnifique. Ça va, vous me suivez? Alors, on arrive un peu au cœur du problème, là. Il remonte depuis Jéricho jusqu'à Bethel. Bethel, de base, c'est un lieu de révélation. C'est là où Jacob a eu la vision des anges qui montaient et descendaient de l'échelle. J'aimerais bien voir ça, moi, une fois. C'est là qu'il a eu la révélation. Mais ce lieu, après la séparation des royaumes par le fils de Salomon, eh ben, c'est devenu un lieu d'idolâtrie. C'est là où des veaux ont été construits pour que les gens du royaume du Nord puissent aller adorer ces idoles. Donc ce qui était un lieu de révélation est devenu un lieu d'idolâtrie. ce qui était un lieu de clarté, c'est devenu un lieu d'aveuglement. C'est fort, hein? Et ça se passe partout dans le monde. Il y a des endroits où il y a eu des révélations incroyables et tout à coup, c'est remplacé par de l'aveuglement. Là, c'est le cas ici. Alors, Élisée, pardon, il arrive dans cette bourgade de Bethel. Et puis là, il croise des enfants. Alors, je vais vous lire ce passage. C'est dans 2 Rois 2, les versets 23 à 25. Je peux projeter. Ah, c'est même en ukrainien. Super. Très belle luminosité, hein, d'ailleurs. C'est vraiment chouette. Beaucoup. Okay. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: Monte chaud, monte chaud. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Hein? Je me suis mis un peu dans le pétrin là. Alors Élie, il maudit ses jeunes enfants, il s'en remet au jugement de l'Éternel. C'est pas lui qui prend les armes, hein? C'est pas sa propre initiative. C'est Dieu qui va directement envoyer des ours. Une autre version met ours avec encore ES. Donc il y a une précision dans certaines versions comme quoi c'est des ours femelles. Ouais. C'est intéressant, hein? Les ours femelles qui viennent protéger leurs petits. C'est ça que ça nous montre. Il maudit ses enfants et c'est l'Éternel qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Alors, il y a cette traduction-là qui parle de petits enfants. C'est un problème. C'est difficile. La traduction, en fait, elle est ambiguë. C'est difficile de savoir l'âge de ces jeunes. Beaucoup d'autres traductions mettent jeune garçon. Le mot utilisé en hébreu, c'est nahar. Nahar. Et il est utilisé plusieurs fois dans l'Ancien Testament, ce mot nahar en hébreu. Il est utilisé pour désigner Moïse, qui a 3 mois. Mais il est aussi utilisé pour désigner Absalom, le fils de David, au moment où il a retourné une armée contre son père. Donc vous comprenez que c'est un petit peu. Il y a un peu une marge de manœuvre là. Là, il s'agit de jeunes nahars. À cette époque-là, enfin toujours maintenant, la bar mitzvah d'un juif, d'un jeune juif, un jeune garçon, c'est 13 ans. Donc c'est à partir de là qu'il est considéré comme adulte, et puis capable de jugement. Et vous allez voir, on va un peu analyser l'insulte qui est prononcée envers Élisée. Ces jeunes, en fait, ils savaient ce qu'ils disaient. C'est une insulte qui a une signification très très forte. Donc je vais vous montrer pourquoi on pense que c'est plutôt des jeunes adolescents, peut-être même des jeunes adultes. Et on va comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par monte chaud, monte chaud. Vous avez une idée? Qu'est-ce qu'il voulait dire par monte chaud? Monte? Monte le vieux? C'est-à-dire viens, viens te battre le vieux? On a envie d'en découdre. Qui c'est qui est monté peu de temps auparavant? C'est Élie qui est monté peu de temps auparavant. C'est Élie qui a été enlevé. Alors ces jeunes, ils avaient apparemment entendu parler de l'enlèvement d'Élie. Et qu'est-ce qu'ils disent là? En gros, ce qu'ils disent, on n'aimait pas du tout ce vieux fou, et on t'aime pas toi non plus. On aura envie que tu disparaisses comme ton maître a disparu. Disparaît au milieu de nous, rends-nous service, monte, comme lui il est monté. Ça change la donne un petit peu, hein. Donc s'ils avaient entendu parler de l'enlèvement d'Élie, ils avaient entendu parler du miracle sûrement à Jéricho, toute une ville dont la source est purifiée de manière miraculeuse, comme ça, c'est des nouvelles qui voyagent vite. Élisée, c'est un prophète de jugement, et eux, ils ont entendu parler de son enlèvement, mais ils ont entendu parler aussi d'Élisée, l'établissement de son ministère comme un ministère de grâce. Ils voulaient pas d'Élie, mais ils veulent pas non plus d'Élisée. Donc ils rejettent pas seulement Élisée, mais ils rejettent la grâce qu'il incarne, la grâce qu'il représente. Élisée, qui s'établit dans son ministère, eh ben là il est rejeté. Il n'est pas accueilli comme Jésus a été accueilli par les Israélites à Jérusalem. Là, il ne voit pas du tout qu'est-ce qu'il représente, la grâce qu'il incarne. Enfin, ils le voient, mais ils n'en veulent pas. Donc, ils tournent cette grâce en dérision. C'est profond, hein? Ce qui est intéressant dans ce chapitre 2, c'est que y a d'abord ce qui mène à l'enlèvement, où il y a cette descente géographique d'Élie et d'Élisée. Et là, Élisée, il remonte. Et au fur et à mesure qu'il remonte, depuis le Jourdain jusqu'à Bethel, c'est son ministère qui prend de l'assise. C'est son ministère qui se confirme. Et là, je pense qu'on peut faire un parallèle avec nous-mêmes aussi. Parce que Dieu, il nous établit chacun pour une mission qu'il a pour nous. Il a une mission pour chacun de nous. Et comme Élisée était annonciateur de la grâce, était annonciateur du Messie, le Messie est déjà venu, nous on est annonciateur de quoi? Là où on est. On est porteur et annonciateur du royaume de Dieu. On a reçu le Christ, on l'a accueilli, on a reçu le Saint-Esprit. Alors, on est porteur du royaume de Dieu. Et là où on va, on annonce le royaume de Dieu. On annonce le royaume à venir et on annonce aussi une transformation pour quiconque le désire, transformation intérieure par le Saint-Esprit. Donc, comme Élisée était porteur de ce ministère de grâce, nous aussi on est porteur d'un ministère de grâce, là où on va. Et le jugement appartient à Dieu. C'est Dieu qui a fait venir ces ours, ce n'est pas Élisée. Donc le jugement appartient toujours à Dieu. Mais nous, contentons-nous de faire notre mission. Je connais une personne depuis de très longues années. Elle est handicapée depuis toujours. Elle a le corps qui est comme déformé. Et c'est une personne qui a énormément de douleurs. Elle vit en institution. Et chaque fois que je la vois, peut-être tous les 3, 4, 5 ans, eh ben, chaque fois elle me dit, mais Jonathan, je prie pour toi. Je prie pour ta femme. Elle se rappelle de tout le monde, de chaque personne. Et dans son institution, elle évangélise, elle parle de Dieu, elle prie pour les gens. C'est une personne qui a son domaine d'action. Elle est annonciatrice du royaume là où elle est. Avec ses limites, elle fait des choses incroyables. On a tous un domaine d'action. Et ce domaine d'action, il est d'abord confirmé par Dieu. Il nous donne une autorité dans chacune de nos missions, de notre ministère, mais il est aussi confirmé par les gens qui sont autour de nous. En général, ça marche. Approbation verticale, approbation horizontale. Ça, vous me suivez? Et après, il y a la posture personnelle. Élisée, il était confiant dans ce ministère que Dieu lui donnait. Il était confiant dans ce ministère d'ambassadeur. Et là, il y a une posture personnelle à avoir. Comme moi, en tant que pasteur, j'étais stagiaire l'année passée. J'ai dû passer comment dire, de paroissien à stagiaire, de stagiaire à pasteur. J'étais à Launay avec Marc Gallet. C'était un défi pour moi. J'étais un petit poisson dans un gros aquarium. Et il y avait des très gros poissons avec moi. C'est intimidant des fois. On est défié dans nos postures personnelles. On a ce sentiment de ne pas être légitime, d'être des imposteurs. Et s'ils découvraient vraiment qui je suis, ils ne voudraient pas de moi. Ah, si Ballon, il savait qui j'étais, ils ne voudraient pas de moi. On a tout ça à notre niveau, hein, dans nos jobs, dans nos cercles d'amis. Tout à coup, il y a quelqu'un d'intelligent qui débarque et nous, on se sent nuls à côté. Et Dieu, il nous établit. C'est Dieu qui nous établit dans nos ministères. Ok, donc ça, c'est la partie de l'insulte monte. On va revenir un petit peu à ce que disaient ces gens. Monte. Ils remettaient en question son ministère. Ils n'en voulaient pas. Qu'est-ce que chauve veut dire pour cette époque? C'était vu comment un chauve à cette époque-là? Pas très favorablement, hein? On a un problème là. Un chauve pour parler des chauves. Super. Chauve parmi les chauves. Alors chauve, c'est pas comme ils n'étaient pas vus comme des moines sages à l'époque. Ils n'étaient pas vus comme des hommes de Dieu qui étudiaient la parole et qui brassaient de la bière. Ils étaient vus comme des gens qui produisaient rien. C'est pour dire même le haut de ton crâne, même ton cuir chevelu, il produit rien. Tu es insignifiant et tu produis rien. Tu pèses pas lourd dans le game. C'est une insulte très forte, ça. Et là, il y a un parallèle que je vais faire qui est inattendu et très intéressant. C'est que c'est un parallèle avec l'histoire de Noé. Noé, il a traversé les eaux. Noé, il a vécu l'enlèvement de son arrière-grand-père, Enoch. Comme Élisée a vécu l'enlèvement de son maître. Élisée, il a traversé les eaux du Jourdain en frappant avec ce manteau en peau de bête. Noé, il a traversé les eaux du déluge avec son arche. Et qu'est-ce qu'il va faire après Noé? Il va planter une vigne et puis il va boire beaucoup trop de vin. Et puis il va finir nu dans sa tente. Je vous dis, c'est un parallèle un peu inattendu, mais vous verrez où je veux en venir. Donc il est nu dans sa tente, et puis il y a un de ses fils qui entre dans la tente et puis il le découvre. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est Cham qui le découvre. Il va aller vers ses frères et puis il va se moquer de son père. Il va découvrir la nudité de son père. Il va mettre en évidence le fait que son père, il a bu un peu trop de vin, et puis du coup il est nu dans sa tente. Il y a une nudité qui est découverte. Mais c'est pareil pour Élisée. Qu'est-ce qui est mis en évidence par ces jeunes? C'est la nudité du crâne d'Élisée, l'improductivité de son cuir chevelu. Dans les deux cas, dans les deux cas, il y a la nudité de quelqu'un qui est découverte. Intéressant, hein, ce parallèle. Moi, ça m'a illuminé. Le grand warning, le grand avertissement, écoutez ici. C'est que quand on s'applique à exposer, donc à se moquer, ou à dévaler, à pointer du doigt, à juger la faiblesse de quelqu'un, eh bien on s'expose à être jugé nous-mêmes de la même manière. Et c'est ce qui se passe pour ces jeunes. Ils disent, tu produis rien, tu pèses pas lourd, tu es insignifiant. Le jugement de Dieu sur ces jeunes, c'est quoi? Vous produisez pas grand-chose. Vous êtes insignifiant et je vais vous décimer. C'est dur, hein? Et alors, je suis conscient, hein, je parle d'un passage qui est très très dur. J'arriverai jamais à, comment dire, ça reste un passage, un jugement qui est difficile à comprendre, d'une sévérité qui est difficile à saisir. Donc ça, je vais pas prétendre pouvoir nous libérer de ce poids-là. Mais il y a des leçons incroyables à en retirer. Et c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle des autres? Comment est-ce qu'on parle des autres? Des fois, souvent dans les villages, il y a des bistrots, il y a des petits cafés, et c'est là qu'il y a un peu les choses qui se disent sur le village. Au travail, c'est la cafétéria ou la machine à café. Et tout à coup, il y a des petits commérages qui se font. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On n'est pas forcément en train de se moquer de la personne, mais ouais, qu'est-ce qu'on dit quand on parle des autres? Et pourquoi est-ce qu'on parle des autres? Est-ce qu'on est en train d'exposer la nudité de quelqu'un? Et moi, quand j'ai étudié le texte et que j'ai vu ce parallèle, j'ai dû me repentir. C'est pas facile, hein? On est appelé à parler avec honneur des gens qui nous entourent. Et des fois, quand on va trop loin, Et bien en fait, on commence à exposer leur nudité, commence à exposer leur faiblesse. Et ça, c'est une culture qui est appelée à changer et qui est clairement dénoncée par ce passage. Donc ça, c'est la partie un peu plus difficile du texte. Le jugement attend ceux qui se moquent de la grâce et exposent les faiblesses des autres. Donc soyons vigilants pour nos propres vies afin de pouvoir changer des vies autour de nous. Quand on réalise ces choses-là pour nous-mêmes, on peut transformer la culture qui nous entoure. C'est ça la transformation culturelle que Dieu veut amener. On parle de façon juste et appropriée des gens qui nous entourent. On n'expose pas leurs faiblesses, on ne se moque pas d'eux. Prenons au sérieux, pour revenir à ce que je disais avant, l'appel que Dieu met sur chacune de nos vies. Dieu, dans ce passage-là, il va défendre son messager, son ambassadeur, en envoyant deux ours femelles. Dieu, il se révèle comme une maman ours qui prend soin de ses enfants. Je trouve ça très beau, même si le passage reste difficile. Donc soyons sécures dans le ministère que Dieu veut nous donner, dans la mission que Dieu veut nous confier. Soyons sécures. Et puis le dernier point, c'est prions pour nos jeunes. Ces jeunes-là, c'est malheureux, parce qu'en fait, ils étaient un peu le produit de la culture dans laquelle ils vivaient. Ils n'y pouvaient peut-être pas grand-chose. Ça faisait des siècles, sûrement, ou en tout cas, plusieurs siècles que cette culture avait changé et que c'était passé d'un lieu de révélation à un lieu d'idolâtrie. Ils étaient le produit de leur culture, c'est malheureux. Donc on a appelé pour à prier pour nos jeunes, pour qu'ils puissent recevoir Jésus. Et en ce dimanche des rameaux, je pense que c'est une bonne chose à faire, de prier pour nos jeunes. J'arrive gentiment au bout de ce que je voulais vous partager ce matin, mais je propose peut-être qu'on puisse revenir un petit peu sur ce qui a été dit aujourd'hui, et faire ça en deux étapes. La première étape, je vous propose peut-être un moment de silence, ou peut-être si vous réalisez que vous avez besoin d'être libéré un peu de ce syndrome de l'imposteur, de ce sentiment d'être insignifiant, peut-être déposez ça à Dieu, parce que Dieu, il veut vous établir ce matin. Et puis, il y a aussi, peut-être pour ceux pour qui ça a été un peu une révélation, cette idée, d'exposer la nudité de quelqu'un. Peut-être que ça vous a un peu frappé en plein cœur. Et je vais aussi vous donner l'opportunité, en ce moment de silence, de peut-être vous mettre devant Dieu et puis vous repentir simplement. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'ai étudié le texte. Ça m'a fait un énorme bien. Et puis, je vous propose qu'on passe peut-être 2 ou 3 minutes dans le silence et puis après, je vais prier. Et après, on va prendre un moment pour prier pour nos jeunes.